Un navire de guerre français a forcé un bateau de pêche anglais à se dérouter vers la France ce 28 octobre 2021. Paris a également lancé un avertissement verbal à un deuxième bateau, provoquant la colère du Royaume-Uni qui va convoquer l'ambassadrice de France. Quels sont les motifs de cette bataille navale? Décryptage avec Xavier Dupré, économiste belge.
Alors, je crois qu'il faut d'abord analyser cette montée des tensions dans le cadre des suites du Brexit. Il faut se rendre compte que le secteur de la pêche était fortement dépendant pour toute une série de pays d'Europe continentale des eaux britanniques. Bien. Dans le cadre des accords post-Brexit, il a été admis que jusque 2025 ou 2026, il y avait encore une possibilité de pêche pour les bateaux d'Europe continentale dans les eaux britanniques, à condition de recevoir une licence de la part de Londres. Mais pour recevoir cette licence, il fallait pouvoir prouver que dans un passé récent, au cours de l'année précédente, on avait passé la majorité ou une grande partie de son temps, ces bateaux avaient donc passé une grande partie de leur temps, dans les eaux britanniques. Il se trouve que dans la plupart des grands pays d'Europe du Nord, Benelux notamment, la pêche est un secteur d'activité très concentré avec des bateaux qui présentent des boîtes noires qui retracent complètement et de manière tout à fait précise, très très géolocalisée, quasiment au kilomètre près, leur déplacement. C'était moins le cas. Donc tous ces bateaux, aux Pays-Bas, en Belgique, ont reçu les licences britanniques. Il se trouve qu'une partie de la pêche en France reste encore fort artisanale. Et pour ces bateaux, il se trouve que le gouvernement britannique était dans son droit, puisque une partie de la flotte de pêche française était dans l'incapacité de prouver, de la manière la plus exacte qui soit, la teneur de leur déplacement et leur relation exacte avec les eaux territoriales britanniques. Ça, c'est pour les rétroactes, sur le plan technique. Mais je crois qu'il faut vraiment lire aujourd'hui l'opposition entre Londres et Paris de manière finalement beaucoup plus politique. Il y a une base technique qui crée toute une série de dissensions. Et c'est bien pour ça qu'à titre de rétorsion, des bateaux britanniques qui étaient dans leur droit, qui avaient pu prouver qu'ils passaient du temps dans les eaux territoriales françaises, c'est bien pour ça que ces bateaux sont à raisonner aujourd'hui et exclus de leur activité économique principale, la pêche, sous des mesures de rétorsion politique. Si ces tensions s'accentuent à ce point, c'est également pour des raisons de géopolitique. Il faut quand même se souvenir du rôle qu'a joué Londres et le gouvernement de Boris Johnson dans l'éviction de la France du marché des sous-marins nucléaires français à destination de l'Australie. Il faut se rendre compte également que la tentative de créer une grande force navale qui englobe l'US Navy, la Royal Navy, l'Australie et peut-être un jour la Nouvelle-Zélande, eh bien, cette reconfiguration-là, eh bien, Londres en a pris sa part et est un membre actif de cette reconfiguration des rapports, enfin, en tout cas des rapports de force géopolitique en mer de Chine, parce que c'est de ça dont il est question. De surcroît, il faut savoir également que dans un proche avenir, il y a de grosses difficultés. Le Brexit a été vécu comme un moment d'affirmation des souverainetés nationales. Pour certains, c'était une horreur, pour d'autres, c'était fabuleux. Je pense que la réalité est à mi-chemin entre ces deux extrêmes. Mais il se trouve aujourd'hui que Londres se sent particulièrement vulnérable pour la fourniture. Il y a des pénuries en Grande-Bretagne, de matières premières de type alimentaire. Or, le commissaire qui a négocié avec Londres et qui a imposé ces conditions particulièrement drastiques était un Français, c'était Michel Barnier. On observe également que la France est un grand producteur de produits agroalimentaires en Europe. Donc, Londres, aujourd'hui, se sent, à tort ou à raison, victime de certaines dispositions du gouvernement français concernant l'approvisionnement en nourriture de la population britannique. Tout ceci est en train de devenir, eh bien, assez compliqué entre Londres et Paris. Alors, va-t-on vers une série d'escalades ? À terme, il faudra trouver un accord. Et on sent bien que du côté britannique, il y a un intérêt à négocier pour faire diminuer un certain nombre de pénuries qui frappent pour l'heure le Royaume-Uni. Je parlais de nourriture, il y a quand même des difficultés, même si c'est pas non plus la famine. Il y a aussi la question des carburants. Il faut savoir qu'une place comme Le Havre était un grand port qui fournissait des hydrocarbures au Royaume-Uni. Donc avec le Brexit, les échanges ont été compliqués. Donc il y a sur ces deux volets-là un intérêt de la part du gouvernement britannique de négocier avec la France. Et d'autre part, la France sera elle-même, et je pense une partie aussi des pays du Benelux, nous allons devoir renégocier un meilleur accès aux eaux territoriales du Royaume-Uni pour nos activités de pêche. Les ressources halieutiques en mer du Nord, dans la Manche, sont relativement faibles, et c'est plutôt du côté des eaux anglaises qu'on trouve du poisson. Donc nous avons, il y a matière à échange et à négociation, mais pour l'heure, nous sommes plutôt dans un registre de musculation. Et je crois qu'il faut se rendre compte que les rapports que le Royaume-Uni aura avec le reste du continent, bien, ce ne sera plus jamais des rapports d'entente cordiale, c'est le cas de le dire, spécialement quand on parle des relations franco-britanniques. Ce seront des rapports d'utilisation réciproque et d'intérêt réciproque. De ce point de vue, on ne peut constater qu'une seule chose, c'est que le Brexit a davantage rapproché le Royaume-Uni des États-Unis, de leurs cousins d'Amérique du Nord, et les a quelque part éloignés de la construction et de la famille européenne. Donc, nous allons vers un des épisodes sans doute plus compliqués, sachant par ailleurs qu'il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Dans la construction européenne telle qu'elle est là, et elle est fort critiquable, le Royaume-Uni n'a jamais vécu son intégration au sein de la famille européenne comme étant quelque chose de définitif. Il s'agissait de l'expression d'intérêt temporaire, d'un intérêt national qui, temporairement, pour Londres, passait par Bruxelles et par les institutions européennes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, donc on devrait assister dans les années qui viennent à, comme ça, régulièrement, des conflits et des résolutions de conflits qui passeront par, en fait, des échanges de bons procédés. On n'est plus du tout dans la construction d'un destin commun avec Londres.